D'être 18h au studio Kalangou. Bienvenue au journal en français dans une présentation de Rafika Taher. À présent, les titres. Un débat citoyen a été organisé hier à Niamey. Il a été initié par les responsables des radios et télévisions indépendantes du Niger pour apaiser le climat politique tendu. Des précisions dans un instant. Environ 650 millions de dollars sont nécessaires au Niger pour scolariser 2,6 millions d'enfants d'ici 2030. Le directeur général du Fonds de solidarité islamique s'exprimera dans ce journal. Le Bénin vient d'interdire la transhumance des éleveurs étrangers d'animaux sur son territoire. Les conséquences éventuelles seront évoquées dans le magazine de cette édition par un expert en prévision et gestion des conflits. Dialogue politique inclusif entre incertitude et risque d'une impasse politique est le thème du premier débat citoyen organisé hier à Niamey par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. Pour Grema Boukar, président du dit réseau, cette initiative vise à apaiser les tensions politiques actuelles. Il répond à notre reporter Zainabou Abdou.
Ça fait partie de notre calendrier. Et c'est normal, donc, nous sommes des médias, nous sommes des médias indépendants. Donc vous voyez, on est obligé de faire des débats pour un peu baisser la tension dans le pays. Et vous avez vu comment le débat a été mené et ça a permis de baisser beaucoup de tensions. Non, on ne peut pas vous dire, c'est le premier débat, à partir de ça, on va s'imprégner comment on doit mener le... Tu as vu comment le chahut de la salle, on a eu beaucoup de problèmes pour calmer ce jeu. Mais on va continuer à faire le débat, mais d'une manière plus organisée.
Au Niger, environ 2,6 millions d'enfants non scolarisés pourraient être inscrits à l'école d'ici 2030. Cela serait possible avec l'aide conjointe du Fonds de solidarité islamique pour le développement, de la Banque islamique de développement, du gouvernement et de plusieurs autres partenaires internationaux. Selon le directeur général du FSID, il faudrait un fonds d'environ 650 millions de dollars pour que ces 2,6 millions d'enfants puissent aller à l'école. Docteur Waled Al-Wahaib sur des propos recueillis par Nafisa Adamou Sirfo.
À l'heure actuelle, le gouvernement fait son effort d'appuyer la moitié de ces enfants-là pour qu'ils puissent être scolarisés. La question est de savoir, est-ce que la communauté internationale et les autres partenaires pourraient aider le Niger à financer cette moitié-là aussi des enfants pour qu'ils soient aussi scolarisés. J'avais annoncé qu'au niveau de la Banque de développement et d'autres partenaires, nous allons mettre à disposition 30 millions de dollars pour aider justement dans cet effort d'éducation, de scolarisation des enfants au Niger. Donc cet effort pourra faire en sorte de pouvoir permettre de construire quelque chose de 200 écoles pour pouvoir avoir 53 000 élèves enregistrés au niveau de ces écoles-là. C'est un montant annuel. Hein, pour que ces 2,6 millions d'enfants puissent aller à l'école, ça nécessitera d'avoir 650 millions de dollars. Donc, nous allons continuer à avoir des discussions avec nos partenaires aujourd'hui et demain et espérons avoir donc l'adhésion que les autres partenaires aussi nous joignent aussi dans cet effort là, pour pouvoir réaliser ce vœu-là.
We will have more commitments from other partners.
Exiger le paiement de leurs droits statutaires, notamment la couverture sanitaire, c'est les primes de recherche et d'encadrement. Ce sont les motifs de la grève de 3 jours engagée hier mercredi par les enseignants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, regroupés au sein de leur syndicat. Écoutons à ce sujet le secrétaire général de ce syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur section de Niamey, Guisso Isaka, au micro de Salamatou Kadri.
Nous avons un certain nombre de droits statutaires que le gouvernement refuse de nous payer. Donc parmi ces droits, nous avons des frais médicaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'université Abdou de Niamey, les camarades investissent eux-mêmes de leur santé et après, ils demandent d'être remboursés à hauteur de 80%. Ça, c'est un premier point. Nous avons également la question de la prime de recherche, de la quatrième tranche de l'année qui vient de finir. Elle devait être payée. La prime, nous avons les encadrements. Puisque nous encadrons des étudiants, par rapport à cela, nous avons des droits. Et ces droits, ça fait 2-3 ans. On a une somme qui tourne autour de 233 millions qui n'a pas encore été. Donc nous réclamons cette somme-là. Si nous avons besoin d'eux, il faut bien que nous accompagnions ces messieurs-là, ces dames-là, pour qu'ils soient également mis dans leurs droits. Quoi de plus normal? Si vous voulez que l'université marche, ceux qui viennent aider les universitaires, il faut aussi leur payer leur argent.
L'État doit revoir la mesure d'interdiction de circulation des motos dans certaines zones de Tillabéri. Ce sont les propos d'un contractuel résident à Tillabéri et qui enseigne à 25 km de cette entité. En effet, depuis la mise en œuvre de cette interdiction, beaucoup de travailleurs, principalement les enseignants, ont des difficultés pour rejoindre chaque matin leur poste dans les villages environnants. Voici le témoignage de Mohamed Souley Badjo, enseignant contractuel à Sakwara, interrogé par Abdoulaye Mamoudou.
Je suis enseignant contractuel au niveau de la section de Sakwara. J'enseigne au niveau du village de Djambala, à 25 km de Tillabéri. Notre déplacement s'est fait en moto. Et aujourd'hui, on interdit les motos de circuler. Comme l'inspection, s'il a besoin de nous, on doit se déplacer en moto. Toi, tu dois rentrer à 8h. Tu viens au goudron à 7h30. Tu es là jusqu'à 8h ou bien 8h30 pour avoir une voiture. Cette mesure-là, ça ne convient pas. Ça nous met beaucoup de problèmes au niveau de l'administration. Au niveau de notre inspection, les enseignants, la plupart logent à Tillabéri. L'État n'a qu'à revoir encore cette mesure qu'il a prise parce qu'on ne peut pas chaque matin attendre une voiture. Et puis il fait frais. Et les enfants sont à l'école, toi tu es au bord du goudron pour attendre.
Les bandits armés ont encore frappé la semaine dernière dans le village de Ruruka, département de Madarumfa. Selon le maire de la commune rurale de Gabi, 8 personnes, toutes des déplacés internes, ont été enlevées. Le maire Kané Damalam au téléphone de Mohamed Maman.
Ces ravisseurs sont venus armés de Kalachnikov. Ils ont enlevé 8 personnes, 7 hommes et une femme. Mais tous sont des déplacés internes. C'est des éleveurs qui étaient au bord de la forêt de Bobarafi qui ont été déplacés pour être ramenés au bord des différents villages. Donc ce sont eux qui ont été enlevés. Pour le moment, ils n'ont pas encore demandé. Ce sont eux qui téléphonent pour dire voilà ce qu'ils veulent. On a deux patries, dont une patrie militaire, c'est-à-dire régionale, et une patrie départementale. Vraiment, la sécurité, nous l'avons. Mais le problème, c'est que des fois, si la patrie est partie vers l'est, ils reviennent vers l'ouest pour attaquer. Partout, il y a un comité de surveillance dans tous les villages. Et seulement, vous savez, quelqu'un qui a un bâton ou un coucou ne peut pas affronter quelqu'un qui a un fusil Kalachnikov.
Un véhicule de l'armée a pris feu lorsqu'une voiture remplie d'explosifs a percuté un convoi routier mardi après-midi lors de combats avec des insurgés de l'État islamique en Afrique de l'Ouest à Mongouno, à 135 km au nord de la capitale de l'Est de Borno, Maïdougouri. 3 soldats sont morts dans l'explosion et 8 autres ont été blessés, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Réfugiés et demandeurs d'asile sont des termes qui sont au cœur de toutes les discussions et actualités ces derniers temps au Niger. Pour avoir les définitions de ces mots et comprendre qui est réfugié ou demandeur d'asile, écoutons Alfred Emmanuel Koubadjo, juriste et président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire, au micro de Tarnan Foudaï Ahmed.
Le réfugié, c'est cette personne-là qui a la nationalité ou la citoyenneté d'un pays qui, du fait de ses opinions ou de sa race, de son appartenance à un groupe ethnique religieux, décide de quitter ce pays-là parce qu'elle craint pour sa vie et décide de se réfugier dans un autre pays.
Il y a combien de types de réfugiés ?
Vous pouvez avoir des gens qui quittent leur pays parce qu'il y a des catastrophes naturelles ou il y a, par exemple, des guerres ou des crises humanitaires, alors qu'il est contraint à quitter leur pays. Maintenant, de l'autre côté, vous pouvez également avoir des réfugiés politiques, par exemple, qui quittent parce qu'elles ont des opinions politiques contraires. Vous voyez, donc là, elles craignent que ces opinions contraires-là portent atteinte à leur vie. Donc là, elles décident alors de quitter.
Et qu'est-ce qu'on appelle demandeur d'asile ?
Le demandeur d'asile, c'est une personne qui, elle, craint également pour sa propre vie et alors décide officiellement d'introduire une demande à un État tiers autre que son État, de lui accorder une sécurité ou une protection. Tout réfugié est un potentiel demandeur d'asile.
Renforcer les capacités des différents acteurs en matière de démocratie et de bonne gouvernance au Niger, c'est l'objectif d'une table ronde organisée par l'ONG EPAD Niger hier à Dosso. Selon le président de l'ONG, cette rencontre vise à permettre aux régions de déterminer leurs priorités budgétaires. Sidi Koumoussa au micro de Aoussi Abdraman.
Le souci de l'ambassade des États-Unis est d'accompagner donc l'ONG EPAD. Et à travers l'ONG EPAD, c'est d'accompagner les acteurs locaux pour que vous vous familiarisiez sur les concepts du budget programme, mais également maîtriser le calendrier budgétaire. Et par la suite, pouvoir en tout cas déterminer vos priorités budgétaires. Nous voulons voir les priorités des régions, que les citoyens des régions eux-mêmes puissent les connaître, puissent les dire, et dans une sorte de recommandation, nous allons les transmettre aux différents ministères sectoriels afin que ces ministères-là prennent en charge ces préoccupations-là.
Un objet d'origine inconnue est tombé du ciel la nuit du 31 décembre 2019 de la localité de Ténia, département de Tanout, région de Zender. Ce n'est pas un objet géologique, c'est juste un objet artificiel, c'est-à-dire fabriqué, a déclaré le directeur régional du service des mines de Zender. Naalla Ousmane nous décrit sa nature au micro de Mustapha Mamansani.
L'objet était sous forme d'une jante d'automobile. On a essayé même de le faire bouger avec l'attraction de deux véhicules. Ça n'a pas pu bouger. C'est très lourd, mais c'est pas assez large. C'est moins de 2 mètres de diamètre. On a pris des échantillons. On ne peut pas les déterminer précisément. C'est pas dégagé. On a même donné l'ordre de ne pas toucher à ça pour le moment. C'est juste un objet artificiel, c'est-à-dire fabriqué. Il y a une partie qui ressemble à de l'aluminium. C'est une sorte d'enveloppe. C'est pas si elle est ovale ou plate. Donc, au choc, elle s'est éclatée. Il n'y a pas beaucoup de débris. Nous, ce qu'on a compris, c'est comme si l'enveloppe, elle est constituée, je n'affirme pas, elle est constituée d'aluminium. Et la forme de jante, constituée peut-être d'un alliage, le feu et le bruit, c'est la chute.
Place au magazine. Le 26 décembre 2019, par un arrêté interministériel, le Bénin interdisait la transhumance des éleveurs étrangers et leurs animaux sur son territoire. À ce sujet, Manga Sambo Oumarou, expert en prévention et gestion des conflits liés à la transhumance et secrétaire général de la Fédération nationale des éleveurs du Niger, Fnen Dado de Dosso, explique les impacts d'une telle décision. Il est interrogé par Fadel Alou.
Le Bénin, chaque année, prend un arrêté interministériel pour réglementer la transhumance conformément à la décision ADECT qui réglemente la transhumance entre les pays membres de la CEDEAO, qui autorise la transhumance entre les pays membres. En plus, le Bénin, en novembre, a pris un arrêté interministériel réglementant la transhumance où ils ont dit que la transhumance chez eux commence le 15 décembre. Les éleveurs des autres pays sont informés de cet arrêté qui ouvre la transhumance au Bénin en novembre. Et à notre grande surprise, en décembre, il prend un autre arrêté pour carrément interdire sur son territoire la transhumance transfrontalière. Donc en interdisant aux éleveurs des autres pays de venir chez eux. C'est du Nigeria, du Burkina et du Togo. Déjà, il y a beaucoup d'éleveurs qui étaient sur la frontière et peut-être même qui ont traversé la frontière.
Quels sont les impacts d'une telle décision sur l'élevage au Niger?
Du moment où le pâturage au Niger est très insuffisant, quand j'étais prendre la région de Dosso, la plupart des espaces pastoraux, c'est seulement pendant l'hivernage que ça produit. Après la libération des champs, il n'y a pas beaucoup de résidus de culture dans les champs. Et puis la région de Dosso, toute la zone du fleuve est occupée par d'autres activités. Donc ça va beaucoup impacter l'élevage et puis les pâturages. Donc les pâturages ne peut pas suffire et à alimenter les animaux. Et en plus, ça a aussi d'impact pour les Bénins même, parce que la plupart des marchés à bétail du Bénin sont alimentés par les animaux de la transhumance qui viennent des autres pays.
Quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre?
C'est surtout avec l'appui et puis la contribution du gouvernement, faire la production fourragère et puis mettre à la disposition des éleveurs les aliments bétail qui peuvent servir de compléments alimentaires.
Nous attirons aussi l'attention de nos autorités, surtout au niveau de la région de Dosso, pour qu'ils puissent sécuriser les espaces pastoraux. Si vraiment on arrive à viabiliser nos ressources pastorales, je pense que ça peut contenir nos éleveurs.
Avez-vous un message à l'endroit des éleveurs?
C'est vraiment de respecter cette décision. Et déjà, on a entrepris des missions de sensibilisation et d'information à l'endroit des éleveurs par rapport à cette décision du Bénin. Il y a des pays qui n'ont pas interdit la transhumance, tels que le Nigeria, mais ils peuvent aussi rester au Niger.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Mokhtar Hamadou vous présentera le forum du jour sur la gouvernance des entreprises de presse au Niger.